Bonjour, Monsieur Gauguin. Tel est le nom de l'exposition conçue par la Galerie nationale de Prague et le musée départemental breton de Quimper. Une exposition qui se déroule jusqu'au 17 mars prochain au palais Kinski sur la place de la Vieille Ville à Prague. Cette exposition met à l'honneur les artistes tchèques des 19e et 20e siècles pour lesquels le littoral breton est devenu une terre d'inspiration. Coup de projecteur sur cette exposition. Exposition réussie, une exposition qui avait déjà rencontré un grand succès public l'été dernier à Quimper avec une de ses commissaires, Anna Pravdova. Anna Pravdova est la conservatrice à la Galerie nationale de Prague. Cette rubrique culturelle a été préparée par Magdalena Rosinkova.
Culture sans frontières.
Anna Pravdova, l'exposition Bonjour Monsieur Gauguin qui se déroule en ce moment au Palais Kinski est divisée en fait en deux parties. Elle est aussi organisée en deux étages. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, comment est-elle conçue?
L'exposition retrace la présence des artistes tchèques en Bretagne pendant la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Et donc chaque étage, c'est un demi-siècle. L'exposition commence au deuxième étage, avec la deuxième moitié du 19e siècle, avec d'abord une partie introductive, et puis les artistes comme Jaroslav Čermák, Soběslav Pinkas, Václav Brožík. Et avec le contexte international, on a la toile Bonjour Monsieur Gauguin, qui a donné le titre à toute l'exposition, qui a été peinte par Gauguin en Bretagne et qui se trouve depuis les années 30 dans les collections de la Galerie nationale. Donc c'est pour ça que ça nous permet de faire le lien avec le contexte français de la présence des artistes tchèques. Donc tout ça se passe au deuxième étage et puis ensuite on descend au premier étage où on commence avec le début de siècle, les gravures de Wojciech Preissig, jusqu'aux années 50 avec Toyen et Grisek.
Je sais que vous vous spécialisez dans la création des artistes tchèques du XXe siècle, mais quand même, est-ce qu'il y a parmi, parce que les artistes tchèques commencent à venir à découvrir la Bretagne donc, dès la moitié du XIXe siècle, est-ce qu'il y a des artistes qui vous touchent particulièrement dans cette période, donc jusqu'au début du XXe siècle?
Tous les artistes sont intéressants. Celui qui nous permet de faire le lien le mieux avec le XXe siècle, c'est Alphonse Mucha, bien sûr, qui a une salle au deuxième étage, l'exposition, et qui, pendant la période où il est devenu célèbre, où il était proche de Sarah Bernhardt, a été invité à faire la promotion des biscuiteries Petulu à Nantes. Il a été probablement invité en Bretagne aussi par Sarah Bernhardt elle-même, qui avait un château en Bretagne. Et donc Mucha s'est inspiré des costumes bretons, il y a les motifs des broderies bretons qui se trouvent sur ses affiches, sur ses boîtes et sur les objets qu'il a dessinés pour les biscuits trilus.
Et donc on a évoqué Paul Gauguin, il a été une grande inspiration pour les artistes tchèques. Il avait aussi des liens personnels justement avec Mucha par exemple. Que peut-on dire de ces liens justement avec les artistes tchèques?
Alors Mucha était vraiment proche de Gauguin. Gauguin, quand il n'avait pas d'argent, à un moment donné, il a, je ne veux pas dire profité, mais il a accepté l'hospitalité de Mucha. On a des photographies de plusieurs soirées qu'ils ont passées ensemble dans l'atelier de Mucha. Mais Gauguin a été important pour beaucoup d'artistes tchèques. Certains sont allés en Bretagne sur ses traces, d'autres sont allés indépendamment de lui. Mais en tout cas, Gauguin a marqué beaucoup d'artistes tchèques, par exemple Kubín, qui est peu présent dans l'exposition parce qu'on a que deux dessins, qu'on a trouvé que deux dessins de son voyage en Bretagne. Il a eu toute une période marquée vraiment par le post-impressionnisme et par les œuvres de Paul Gauguin. Et il a peint le paysage morave, son paysage natal, à la manière dont Gauguin a peint le paysage breton. Donc les liens sont très divers et variés, mais intéressants.
Donc, dès le début du XXe siècle, la Bretagne est, avec Paris, la destination préférée des artistes tchèques, notamment dans les années 20. Quels sont donc les grands noms de cette époque-là?
Alors, bien sûr, il faut mentionner František Kupka, qui est allé plusieurs fois en Bretagne. Il a fait des longs séjours de plusieurs semaines. Il faut mentionner Anzer Zavi, c'est le seul artiste vraiment qui incarne cette présence d'artistes tchèques en Bretagne. Et ensuite, on a déjà évoqué Foyen, Krizek, Věra Jičínská, ale quelquefois avec Anzer Zavi, Alain Divich a un tableau breton, un seul. C'est intéressant aussi que certains artistes dont on connaît l'œuvre de sous un aspect très différent, ont aussi des motifs bretons, des fois un dessin ou une toile. C'est le cas donc d'Alain Divich et c'est le cas d'Antonin Peltz. Il y a un artiste peu connu, František Vojáček, qui a fait plusieurs dessins et toiles en Bretagne, qui est illustrateur, qui n'est pas très connu, mais ses œuvres sont très intéressantes. Voilà.
Et František Kupka, il est l'auteur du célèbre tableau La Vague, qui montre une femme avec donc une grosse vague derrière et la côte bretonne aussi à l'horizon. Et en fait, la mer était aux yeux de Kupka très proche de la féminité. Il trouvait que les deux éléments, si on peut dire, la mère et la femme avaient une même sensualité.
Oui, il a fait plusieurs tableaux, dont la toile dont tu parles, La Vague, ou plutôt l'élément incontrôlable de la mère était pour lui associé parfois à l'élément incontrôlable de la femme, ou certaine sensualité, ou cette énergie vraiment forte et impressionnante. C'est aussi le cas de son tableau Baladjoie, qui elle a le titre Epona, qui était une déesse celte. Et donc Kupka, malheureusement, cette toile, elle n'est pas dans l'exposition parce qu'elle était dans la rétrospective Kupka, et comme les deux expositions ont eu lieu en même temps, donc cette toile n'y est pas, mais elle aurait pu y être. Ces deux femmes sur les chevaux se trouvent sur la côte bretonne, et c'est ça aussi, ça associe également cette sensualité féminine et c'est l'élément de l'océan déchaîné ou incontrôlable.
Et puis Anzer Zavi, donc on dit que personne, aucun peintre au monde presque n'a peint la Bretagne comme lui. Quels étaient ses endroits préférés sur la péninsule?
Alors au départ il aimait aller à Camaret. C'est le premier endroit qu'il a découvert en Bretagne. Il est tombé tout de suite amoureux de cette région, et ensuite il a voyagé dans différents endroits. Il aimait beaucoup aller à l'Ocronan. Il disait, quand il a un peu de spleen ou il est un peu triste, il va méditer à l'Ocronan ou se retrouver à l'Ocronan, que ça lui fait du bien. Sinon il peignait beaucoup la côte, rarement les villes. L'Ocronan est une exception avec Kermeur. Sinon c'était beaucoup donc Camaret, avec les bateaux sur la mer, les ports, l'île de Saint, énormément. Il y a beaucoup de toiles sur l'île de Saint. Une fois qu'il a découvert cet endroit, il aimait y revenir. L'île des Molènes aussi, l'île Ouessant. Et voilà, ça c'est les principaux endroits qu'il a peint en Bretagne. Et chaque toile est très différente, et à la fois on voit tout de suite que c'est Anzer Zavi. Il y a quelque chose de très particulier, très original dans la façon dont il a peint la Bretagne.
Justement, quelle est la spécificité de sa vision de la Bretagne?
Il peint beaucoup le paysage désert. Il a peint très peu les gens, les Bretons, surtout les paysages. Sur l'île de Saint, c'est souvent la vision des digues, la vue sur les digues et les petits amas de pierre qui protégeaient les petits champs des vagues et du vent, parce que c'est un endroit où les éléments sont très forts, les éléments naturels. Il aimait beaucoup peindre les barques sur la mer, les maisons, mais à sa manière. C'est toujours un peu, je ne sais pas si on peut dire métaphysique, mais il y a toujours un côté onirique, métaphysique. C'est la Bretagne vue par Anzer Zavi, vraiment. Il ne cherche pas à rendre une peinture très réaliste, mais il la peint telle qu'il la voit, la Bretagne, jusqu'à créer une sorte de langage lui-même très simplifié, une sorte de signe, que même après, quand il va retourner à Prague et il décidera ne plus retourner en Bretagne à cause des accords du Munich, il va continuer à peindre la Bretagne à sa manière, avec des signes très simplifiés, des barques, des maisons, des ports. Et c'est toujours la Bretagne de Jan Zrzavik.
Je voudrais qu'on évoque donc les deux femmes qui sont présentes dans l'exposition, Sewiera Jeczynska, avec ses portraits tout à fait exceptionnels des femmes, surtout bretonnes, et Toyen.
On a aussi une toile de Mezerova, juste pour préciser qu'il y a une troisième femme dans l'exposition. Sewiera Jeczynska, c'est quelqu'un de très intéressant et encore peu connu.
Peu connu en République tchèque, justement.
Oui, elle mériterait d'être plus connue, mais il y a eu une thèse de doctorat très bonne, écrite sur son œuvre par Barbora Zlámalová, et il y a un projet d'une monographie en vue.
Elle a découvert la Bretagne grâce à Jan Zrzavik, justement.
Alors, on ne sait pas précisément, mais en tout cas, ils se sont motivés mutuellement d'aller en Bretagne, et on a des lettres que Jan Zrzavik lui écrit, je suis à Camaret, il faut que tu viennes. Mais après, elle allait dans des endroits où Zrzavik n'est pas allé, donc elle a découvert sa Bretagne aussi. Et elle a une œuvre très intéressante, non seulement en Bretagne, mais aussi à Paris, parce qu'elle a vécu toute la période entre les deux guerres à Paris, et presque, enfin pas toutes, mais beaucoup, surtout les années 20. Et c'est quelqu'un de très original, ouais.
Et Toyen, un mot de ce tableau breton.
Alors Toyen, elle allait en Bretagne en compagnie d'André Breton, Benjamin Perret, de ses amis du groupe surréaliste, et de Charles Estienne, le critique d'art aussi proche du groupe surréaliste à l'époque. Et elle allait surtout sur l'île de Sein. Ces tableaux bretons sont très différents de tout le reste, bien évidemment, parce que ce n'est pas du tout des représentations réalistes, mais des sublimations, des œuvres où elle transmet un peu ce qu'elle a pu ressentir en Bretagne par rapport à la nature. Donc, comme j'ai dit, elle allait beaucoup sur l'île de Sein, et c'est une île, comme Jan Zrzavik disait, c'est les éléments, il n'y a que les éléments eux-mêmes, c'est-à-dire beaucoup de vent, beaucoup de bruit des oiseaux, beaucoup de l'océan très sauvage. Et donc, chez Toyen, on retrouve des toiles où on trouve une plume d'oiseau, une pierre, un galet qu'on aurait pu trouver sur la plage, ou des choses qu'on aurait pu trouver sur la plage, parce qu'elle aimait beaucoup aller avec ses amis sur les plages à la marée basse et collecter ce que la mer a laissé sur la plage. Donc, elle associe tout ça, elle en fait des compositions très originales, des fois presque abstraites, mais où on sent bien l'eau, l'océan, les poissons, les éléments un peu déchaînés, sauvages ou authentiques.
La Deuxième Guerre mondiale représente une rupture dans ces découvertes de la Bretagne par les artistes tchèques, et en fait il sera difficile de s'y rendre, même après la Deuxième Guerre mondiale, parce que à cause du régime communiste. Mais quand même, quels sont les artistes tchèques qui vont encore dans les années 40, 50, 60 peut-être?
Dans notre exposition, il y en a trois. En 46, encore juste après la guerre, c'est František Gross et Otto Janeček. Ils ont pu aller après, grâce à un voyage organisé pour les artistes tchèques, pour renouer les contacts entre les scènes artistiques parisiennes et pragoises après la guerre. Mais ils sont passés très rapidement, une semaine. Et après, bien sûr, c'est les artistes donc, qui se sont exilés en France. Donc c'était Toyen, dont on a déjà parlé, et Jan Krizek, qui à partir de 1947 vivait à Paris et qui a pu aller passer un été en Bretagne. Parce que c'est encore le critique d'art Charles Estienne qui lui a arrangé cette possibilité d'avoir à sa disposition une maison en Bretagne. Et il a passé un été à faire la sculpture dans cette maison en Bretagne. D'abord, il aurait dû être logé juste à côté de l'océan. Et ça lui était insupportable, justement, ce bruit des oiseaux, des vagues, cette énergie l'empêchait de se concentrer sur son travail. Donc ensuite, il a pu aller dans une autre maison avec un jardin entouré d'un grand mur, et c'est là qu'il a créé pendant un été donc les œuvres, ses œuvres bretonnes, si on peut dire ça comme ça. Parce que le but, c'était qu'il puisse avoir de la place pour faire de la sculpture. C'est ce qu'il aurait préféré faire même à Paris, mais il n'avait pas de place, il habitait dans une chambre de bonne. Donc le but aussi de ce voyage, de cette proposition de Charles Estienne, c'était de lui permettre de faire la sculpture. Donc il a fait des sculptures d'assez grand format, en bois notamment, et quelques sculptures en pierre.
Finalement, Anna Pravdova, donc, vous avez passé plusieurs années à retracer les parcours des artistes tchèques du XXe siècle, notamment en Bretagne. Qu'est-ce que ça vous a donné personnellement ?
C'était très intéressant. Ce qui était très intéressant, c'était une belle aventure qui a pris plusieurs années. On a commencé à faire les recherches vers 2014, même si j'avais dans le cadre de ma thèse, je m'intéressais déjà à ce sujet. Et c'est pour ça que les collègues bretons, en fait, se sont adressés à moi pour m'inviter à faire ce projet avec eux. Et cette collaboration était très enrichissante parce que ils connaissent parfaitement, les collègues du musée départemental breton connaissent parfaitement les costumes, les endroits en Bretagne. Ils nous ont permis de localiser pas mal d'œuvres dont on ne savait pas s'ils étaient vraiment bretonnes ou pas, ou d'autres qu'ici on les intitulait paysages de France. Ils nous ont permis de les localiser précisément. De l'autre côté, nous, on leur a amené beaucoup de matériel pour eux surprenant. Ils nous ont dit qu'ils ont fait déjà avant les artistes polonais en Bretagne, les artistes russes, les artistes anglais, et que jamais on leur a amené une matière aussi riche et nombreuse. Donc les artistes tchèques là-dessus ont été exceptionnels par rapport à d'autres communautés, même si à un moment donné la Bretagne attirait les artistes du monde entier. Et donc c'était cette collaboration avec nos collègues bretons qui était très, très enrichissante.